Bonjour, bon après-midi à vous aux Imaginales en ce vendredi. On va s'intéresser à un endroit où il doit faire un petit peu meilleur qu'ici et un peu plus chaud. Je pense que c'est pour ça que vous êtes venus essentiellement en vous disant ils vont nous transporter en Égypte, on va enfin pouvoir avoir un peu de soleil, un peu de chaleur. Mais dites-vous que c'est peut-être les 7 plaies qui sont arrivées jusqu'à l'épinal. Peut-être que certains de nos auteurs ont fâché des dieux, allez savoir. En tout cas, c'est peut-être le cas de Philippe Ward et de Sylvie Miller avec La Serre, leur détective, on va y revenir. Et puis avec Béatrice et Gemma et avec Alain Grousset, on parlera là aussi d'Égypte, alors peut-être de manière un petit peu plus classique. Et puis surtout aussi en regard avec la jeunesse, je pense que c'est intéressant aussi qu'on ait ce point de vue là-dessus, de voir comment justement des auteurs jeunesse parlent de cette Égypte. Mais moi, je voulais commencer avec Sylvie et Philippe, tout simplement d'abord parce que vous allez être récompensés dans le cadre de ces Imaginales, puisque le premier volet des aventures de La Serre, un privé sur le Nil, va recevoir demain soir le prix de la nouvelle. Tout bêtement, qu'est-ce que c'est que ce mélange que vous nous proposez, qui a pour cadre l'Égypte, mais ensuite on part dans quelque chose, là pour le coup on est vraiment dans l'imaginaire le plus absolu. Comment on le classe ce livre?
Je crois justement qu'il est inclassable, et d'ailleurs c'est pas évident pour les libraires finalement d'arriver à le mettre quelque part, parce que en fait avec Philippe on adore l'Égypte, enfin on est passionné d'Égypte ancienne depuis très très longtemps. Le polar, on adore ça. Et puis on adore un peu tout ce qui est un peu humoristique, etc. Et on a un petit peu mis tout ça et mélangé. Et ça nous donne donc un personnage de détective dans les années 30 qui est en Égypte, mais cette Égypte est encore pharaonique. Donc déjà, en plus, on est dans l'Uchronie, donc qui est de la SF pure, avec une Égypte qui n'est pas l'Égypte qu'on connaît, mais qui... enfin, l'Égypte d'aujourd'hui a gardé ses modes de vie traditionnels, mais elle a quand même évolué, parce que c'est quand même une Égypte des années 30. Ils ont donc, il y a quelques progrès techniques qui se sont faits, etc., mais il y a encore une organisation sociale avec le pharaon, les médjaï, etc. Et, autre caractéristique, les dieux marchent au milieu des hommes. Donc on est là, on touche à la mythologie, à la fantaisie, et lorsque La Serre est en train de picoler dans son bar et que Isis déboule et lui dit bah voilà, Thoth a perdu son manuscrit, il faut absolument le rechercher. Vous êtes détective donc au travail. Évidemment, il n'a pas du tout la possibilité de refuser, sinon en moins de deux il est vaporisé et puis comme ça c'est réglé. Donc ben il y va et il ne sait pas du tout dans quoi il a mis le doigt, mais ça va l'entraîner dans des aventures absolument hallucinantes. Et donc dans le premier tome, dans la mesure où c'est un petit détective pas connu, il mène de petites enquêtes qui d'ailleurs deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus longues, pour finir par devenir le détective attitré des dieux. Puis dans le deuxième volume, un privé sur mariage à l'égyptienne, là c'est vraiment une très grosse enquête qui tient tout le livre. Donc ça explique pourquoi c'est pris de la nouvelle dans le tome 1, parce que ce sont une série de petites enquêtes un peu construites comme des nouvelles, mais avec des personnages récurrents, une intrigue qui évolue, le personnage qui se développe, etc.
Oui, pareil. Je dirais que La Serre, c'est un mélange de trois films. C'est Cléopâtre, c'est Le Faucon Maltais et c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit. Vous prenez ces trois films.
C'est vrai qu'Isis m'a fait penser à Jessica Rabbit.
Voilà. Donc vous prenez ces trois films et c'est, je dirais, c'est toutes nos passions qui sont là-dedans. On a parlé de l'Égypte. Je dirais, moi, je suis un grand passionné d'Égypte depuis que je dois avoir 12 ans. J'ai eu la chance de fêter mes 20 ans à Alexandrie. Ça, c'est un souvenir qui restera toute ma vie. Donc ça, c'est une de mes passions. L'autre passion, c'est le polar américain d'H.L. Hammett et tout ça. Ça, c'était mes lectures quand j'avais aussi 20 ans. Et puis, c'est la fantasy. Donc on a pris tout ça, on a mis tout ça dans un shaker, on a bien secoué et on a donc fait La Serre.
On va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce que vous avez fait et sur aussi les clins d'œil qui sont nombreux dans cet univers. Mais évidemment, on va quand même essayer de parler aussi de votre vision de l'Égypte à travers tout cela. On va revenir peut-être à une Égypte un peu plus classique avec Béatrice et Gemma. Là aussi, c'est une passion, l'Égypte au départ.
Oui, et Philippe parlait de 12 ans, enfin, la sixième, quoi. À notre époque, on étudiait l'Égypte en sixième, mais pour beaucoup, c'était un gros coup de cœur. Donc,
Mon exposition au
Voilà, moi j'avais le livre de l'exposition Toutankhamon avec les gazelles en albâtre, avec les yeux peints. Voilà, bon, moi c'était un choc esthétique et puis historique, voilà, tout à fait. Donc c'était tombeuse amoureuse de l'Égypte à peu près au même âge que vous. Oui.
Et donc l'envie d'y situer des histoires, des romans, c'est venu du coup naturellement
C'est venu au fur et à mesure que j'ai écrit. Moi j'ai commencé très modeste et très petit par des petites histoires dans la presse jeunesse. Et puis comme j'ai vu que les petites histoires marchaient, j'ai commencé un petit roman en jeunesse. Et puis comme le petit roman marchait, je me suis dit bon ben, je vais me faire plaisir et je vais faire un roman historique en Égypte. Et puis après, on m'a suggéré de faire un grand format en Égypte. Et puis après, on m'a suggéré de passer un adulte aussi. Donc boum boum boum, j'ai un peu l'impression de monter un escalier. Donc voilà, ça s'est fait comme ça quoi. C'est par passion. J'ai essayé d'écrire le livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 11 ans quoi en fait.
Là, on l'a vu avec un cadre de pur imaginaire, mais ouais. Quand on prend le cadre plus historique, plus classique, on est aussi quand même dans un cadre qui est propice au romanesque, justement.
Alors, moi, ce que je trouve intéressant pour la jeunesse en roman historique avec l'Égypte, c'est que les enfants, ils ont quand même pas mal une culture de ce qu'était l'Égypte. Je le vois, par exemple, il y a deux livres qui sont devant moi. Il y a un que j'ai écrit en Égypte ancienne et l'autre pendant la Renaissance. J'ai trouvé ça beaucoup plus dur d'écrire sur la Renaissance pour les enfants et les ados parce qu'ils ont des repères assez flous. Alors que l'Égypte, que ce soit par les BD, papyrus, par les programmes historiques pour ceux qui étaient avant la réforme et par la culture générale, ils savent ce que c'est qu'une pyramide, ils savent en gros ce que c'est qu'un pharaon. Donc moi, ce que j'aime, c'est de trouver des sujets un peu à la marge, de ne pas mettre forcément le fils de pharaon en scène. Là bon, bah, c'était un haut fonctionnaire, c'est un peu un roman initiatique, c'était quelque chose où je ne suis pas obligée d'expliquer complètement ce que c'est que l'Égypte. Donc on peut se faire plaisir.
Alain, mais que fais-tu là, Alain ?
Ben, je me demande. Non, parce que moi, ce n'était pas une passion. Je peux sortir. Non, ça n'a rien à voir. Ça fait effectivement 25 ans que j'écris pour la jeunesse et jamais je m'étais frotté au roman historique et de l'Égypte. Bon, je sais que ça marche bien pour les jeunes, mais bon, jamais. Non, rien à faire avec ça. C'était simplement que j'ai un ami qui est préjuditateur et qui s'intéresse à l'histoire de la préjuditation, et en discutant une soirée avec lui, il m'a dit, ben voilà, la première magie blanche, c'est voilà, les premiers tours et tout ont été faits à cette époque. Donc c'est ça qui m'a intéressé, en fait.
Voilà. Plus que la civilisation.
Plus que la civilisation. Que bon, alors, après, bon, il a fallu que je le documente, mais non, je n'ai pas une grande passion, enfin, c'est pas que je déteste, mais je n'ai pas une grande passion. Moi, c'est la science-fiction, ma passion, voilà, c'est tout.
Et comme Béatrice, l'impression que le jeune public a déjà des repères ou est-ce qu'il faut faire
oui,
un travail
pédagogique ? Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a ce créneau que les enfants adorent. Une fois qu'ils ont passé le créneau des dinosaures et de la préhistoire, après, effectivement, l'Égypte, pour eux, est quelque chose d'absolument merveilleux d'une autre civilisation. Et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi. Alors après, bon, bah, il faut effectivement faire du romanesque pour qu'ils ne s'ennuient pas, hein, tout est là. Et bon, après, c'est le travail de l'auteur de rendre le plus crédible possible le cadre dans lequel il a plongé ses héros.
Sylvie, cette Égypte, elle est donc assez particulière, elle est revue, corrigée, mais elle garde justement, bien qu'étant beaucoup plus proche de nous, on va dire chronologiquement, elle garde quand même cet attrait, cet exotisme particulier que peut avoir l'Égypte. C'était aussi quelque chose qui était important justement de la rendre pas forcément d'en faire une carte postale touristique d'une Égypte contemporaine, mais vraiment de conserver dans une époque contemporaine cet aspect mythologique.
Bah, c'est-à-dire qu'on est dans l'Uchronie, hein, le Essi, et donc on s'est dit que serait l'Égypte dans les années 30 si on avait gardé les pharaons tout en ayant un peu de progrès technique et ça nous donne effectivement une Égypte où on a on a des avions, on commence à avoir quelques avions parce que c'est les années 20, années 30, on a un petit peu de modernisme mais avec une structure sociale et avec des bâtiments qui ont un peu gardé ce côté ancien parce que évidemment ce qui nous intéressait c'était de conserver à l'Égypte ce côté antique qui la rend si magique. Et en plus, ce qui était nécessaire pour nous, c'était que si on voulait que les dieux puissent se promener de façon un peu crédible au milieu des hommes, il fallait garder un peu cette structure antique où là, dans l'Antiquité, on était absolument persuadé qu'ils existaient, qu'ils avaient... donc là, personne ne remet en cause, enfin, les dieux circulent, et d'ailleurs, le monde entier va garder cette structure-là, puisque on se rend compte dans le tome 2 que les dieux grecs sont toujours là et que la Grèce est toujours antique, et on verra par la suite que Rome existe encore,
la Gaule
qui existe encore, avec les dieux gaulois, et ça permet justement de jouer sur les mythes, les dieux. Mais, même chose, on s'est dit, si les dieux circulaient parmi nous dans une époque moderne, au XXe siècle, bah forcément, ça serait des people. Hein, ils seraient avec des belles voitures, affrimés. Donc, on a ce côté, effectivement, tout de suite, du grand luxe, à celui qui en jettera le plus, et avec ce côté un peu dérisoire des dieux.
Je peux intervenir. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment à l'opposé de ce que moi j'ai découvert en me plongeant dans l'Égypte ancienne. C'est que j'ai eu là d'un seul coup la conscience que les dieux étaient mortels. Toute cette société est tournée autour des dieux et une multiplicité des dieux. Ces dieux-là n'existent plus aujourd'hui. Donc ça donne bien l'impression que toutes les guerres de religion qui peuvent encore, ou tout au moins ces influences de la religion actuelle, tout ces. Un instant T, ça ne voudra plus rien dire dans quelques siècles. Alors que toi, effectivement, vous les avez continuer à les faire vivre.
On aborde clairement, notamment dans une des enquêtes, le fait que les dieux n'existent que parce que les dieux croient en eux, que parce que les hommes croient en eux. Avec notamment, à un moment donné, la nouvelle sur le Nil, où s'il n'y a plus de Nil, il n'y a plus d'Égypte, il n'y a plus d'hommes. Et comme il n'y a plus d'hommes pour croire en les dieux vont disparaître. Donc...
Et puis il y a toujours les guerres de religion, puisque c'est les guerres entre les dieux égyptiens contre les dieux grecs. Donc elles existent encore.
C'est les panthéons qui s'affrontent.
C'est les panthéons qui s'affrontent, oui.
Et justement, cette Égypte, il a fallu aussi conserver certains codes, j'imagine, sociaux en particulier.
Mais disons que c'est vraiment aussi l'Égypte 1930. On a beaucoup travaillé sur ces années-là. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur des cartes postales, on a travaillé sur des guides de ces années-là. Je veux dire que quand le héros va de l'hôtel au plateau de Gizeh où il y a 58 pyramides, la route, elle existe. Donc, on a vraiment travaillé. Toutes les descriptions, on a travaillé là-dessus. Les quartiers existent. Donc, on a pris... Parce que pour moi, un détective, c'est les années 30. Je veux dire, pour moi, dans mon imaginaire, c'est le Faucon Maltais. C'est lui, c'est Philippe Marlowe. Et donc, je n'imaginais pas mettre un détective dans les années 60 ou dans les années 1890. Les années 30, vraiment, c'est la base du roman policier, du détective qui boit du whisky et tout ça. Donc, c'est ce mélange qu'on a fait, années 30 et Égypte antique.
L'alcool, si j'ai bien compris.
Voilà. Et notamment, présent, oui. Oui.
Et qu'est-ce qu'ils en pensaient, les dieux égyptiens, de l'alcool? Vous avez fait comment la confrontation? Je sais pas, je me pose vraiment la question. Quoi.
Ils n'aiment pas trop, ils ont leur propre boisson. D'ailleurs, on les voit rarement manger et boire au milieu des humains. Ils viennent surtout parader.
On sait qu'ils font la fête.
Ils font la fête.
Dans le deuxième,
ils font la fête. Oui, voilà. Mais pour en revenir à la question sur l'organisation sociale, on a aussi fait énormément de recherches sur l'Égypte antique avec l'organisation sociale, le pharaon, un petit peu toutes les hiérarchies qu'il pouvait y avoir et en essayant de reprojeter ça aussi sur cette Égypte.
Attends, j'ai encore continué à les interroger.
Mais je t'en prie.
Moi, l'autre chose importante que j'ai découvert en faisant ce livre, c'était l'absence de monnaie. Alors
oui,
comment
c'est
vous en débrouillez? Parce que on est dans la crise et tout, monétaire. À l'époque, ils se débrouillaient sans monnaie.
Nous, ils échangent des bijoux, ils échangent des choses, des marchandises. Et donc, voilà. Il se fait notamment Isis. Quand elle arrive, elle pose un super bracelet en or. Et donc, d'ailleurs, il est content. Il se dit, c'est bon, j'ai le logement payé pour un certain temps déjà. Donc on est effectivement... Mais comme en plus, on est dans les années 30, on peut aussi imaginer qu'il y a un système d'échange autre que le troc qui peut s'être installé.
Béatrice, alors avec vous, on n'est plus dans les années 30, on est beaucoup plus loin en arrière. Puisque je vois l'œil de Seth devant nous, est-ce que vous pouvez nous situer justement à quelle époque on se trouve dans ce roman?
Moi, c'est Ramsès III, hein, donc c'est 11e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est une période que j'aime bien parce que c'est un petit peu un pharaon qui est moins connu que Ramsès II, enfin j'imagine, et c'est le dernier grand pharaon, quoi. C'est le début de la décadence de l'Égypte. Et ce qui est marrant, c'est qu'il se produit des tas de choses passionnantes à cette époque, qu'on ne voit pas toutes évidemment dans le livre. Et notamment, il y a les premières grèves de l'histoire qui se passent quand même sous Ramsès III. Le village des artisans de la tombe de Pharaon, s'est mis en grève parce qu'ils étaient plus payés, alors pas en numéraire bien sûr, mais en onguents, en nourriture, etc., en poissons. Donc c'est les premières grèves de l'histoire. C'est là que le respect un petit peu pour les tombes royales de la Vallée des Rois a baissé. Donc c'est là qu'il y a eu les premiers pillages de manière un peu conséquente. Et ça apparaît ça dans le roman, par contre, les pillages. Donc c'est une époque qui me plaît bien. C'est une époque charnière.
Et là aussi, on voit une hiérarchie vraiment sociale se dessiner de manière assez nette. Puisque au départ, on est dans un village avec un médecin. Mais alors, j'ai eu l'impression, au fur et à mesure du roman... être médecin à cette époque-là, c'était pas vraiment être un notable.
Si, c'était bien, mais le fils de ce médecin, lui, a pas envie de faire ce travail. C'est pour ça, comme on le voit à travers ses yeux, bon, la plupart des enfants, des garçons, faisaient le boulot de leur père. Hein. Ils étaient introduits là-dedans. Ils faisaient des études théoriques de scribe pour ceux qui avaient la chance d'en faire, et après, ils commençaient à entrer en apprentissage et apprendre en général le boulot du père ou de l'oncle ou de quelqu'un de la famille. Et donc cet enfant, qui en fait est un enfant adopté, hein, ne se sent pas du tout la vocation de médecin. Voilà.
Là qu'il a un gros souci, c'est qu'il n'aime pas la vue du sang.
Oui, c'est gênant.
Un petit peu embêtant pour un futur
médecin. J'essaie de me projeter, parce que moi j'aime bien les trucs un peu terre à terre, j'essaie de m'imaginer à la place d'un médecin par le climat égyptien, la chaleur qu'il y avait, la poussière, devant une plaie. Donc comme personnellement c'est quelque chose que j'ai assez de mal à vivre, j'ai pas eu de mal à décrire.
Il faut aimer les mouches, c'est ça.
Mais le miel, il paraît que le miel est un très bon cicatrisant.
Mais oui, effectivement, on voit la difficulté que lui a, garçon saigné.
Oui, il aime son père, il le respecte, mais franchement, il n'a pas envie de faire ce boulot-là.
Là encore, il y a une volonté aussi de nous raconter, pas seulement une histoire, mais aussi de nous montrer un petit peu ce qu'était la vie au quotidien
dans cette Égypte-là. Oui, c'est ça qui me motive dans les romans historiques. Vraiment, si je pouvais trouver une porte du temps, prendre le lecteur par la main et lui dire, allez, tu fermes les yeux, je te prends la main et hop, on saute et on va se retrouver là, ça serait un rêve, quoi. Donc j'essaie de qu'ils sentent les odeurs, qu'ils voient les couleurs, qu'ils se retrouvent à pied avec l'environnement, qu'est-ce qu'ils voient. Alors évidemment, ça suppose plein de recherches que vous connaissez tous, quoi. Quand j'interviens dans les classes, j'essaie de faire imaginer ça aux enfants. Je dis, ben voilà, vous écrivez un roman en Égypte, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils bougeaient, comment ils s'informaient. Ça a l'air tout bête. Hein. Si un crime se passe au nord de l'Égypte, on ne le saura pas dans le sud le lendemain. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas d'internet, évidemment. Voilà.
Les déplacements
sont très longs quand on écrit des polars en Égypte. C'est affreux parce que c'est un acte nord-sud. Alors, moi, j'ai fait une série de petits romans avant pour Florus. Il y avait un meurtre qui se passait à Bubastis dans le Delta et le héros était à Thèbes parce que je n'avais pas prévu que ce soit un héros récurrent. C'était la galère, quoi. 3 semaines pour descendre et 1 mois pour monter. Donc,
ah bah nous, on a trouvé une solution à ça, pour redescendre vite.
Vous trichez. Vous envoyez un coucou de 1930 à aller chercher. Voilà, c'est beaucoup plus simple.
Ou des grosses voitures qui vont très vite aussi.
Oui, ou des vagues qui descendent le Nil à toute allure.
Il y avait des routes, c'est ça, parce qu'il n'y avait pas de route en Égypte ancienne.
Nous, on a des routes et des voitures, forcément.
Effectivement, ils ont inventé le surf aussi, de manière très, très efficace.
Ah ben, Agatha Christie faisait du surf dans les années 30.
Alain, quel est le contexte de ce magicien du pharaon?
Ouais, c'est un jeune enfant qui a été initié à la préjuditation par son oncle, qui disparaît d'un seul coup, mais cet oncle est architecte. Et on apprend qu'il a été enlevé par des prêtres qui veulent faire un temple caché pour mettre tout ce qu'ils ont récupéré dans les offrandes et tout, parce que bon, déjà à l'époque, on en mettait maximum à gauche. Et il faut le faire, cette espèce de temple caché, une sorte de tout un parcours pour le sécuriser avec des choses trappes, tout un tas de trucs. Donc il est employé par ça à faire ses plans de temple caché, mais n'empêche que bon, au bout du compte, ils veulent le faire disparaître après, bien entendu.
Les secrets qui sont pas bons à détenir.
Et voilà, donc ce jeune garçon va tomber par hasard sur un autre jeune qui va devenir effectivement, à la mort de son frère, pharaon, à son tour. Donc là, effectivement, j'ai cherché dans une liste absolument incroyable de pharaon, et puis je me suis calé sur Antef 2, ça n'a rien à voir avec la télé, hein, c'est pas Antenne 2, mais ça m'intéressait parce qu'en même temps, il menait une guerre qui était assez intéressante pour moi, qui était la réunification de la Basse et la Haute-Égypte.
Donc là encore,
voilà, donc ça, et puis en même temps, donc voir le fonctionnement des religieux qui profitaient de la crédulité des gens en leur balançant tout un spectacle de magie qui les laissait comme un rond de flanc, c'est-à-dire des portes qui s'ouvraient toutes seules, des statues qui parlaient. Et en fait, ils étaient très au fait de la physique de l'époque, la physique tout court, et arrivaient à faire des espèces de miracles, tout simplement, avec la dilatation des fluides et tout, en faisant chauffer. Voilà. Donc, comme le pharaon s'oppose violemment aux prêtres qui ont gardé tout l'argent, et lui essaye d'en récupérer, parce que le pays est en faillite, déjà à l'époque. Hein, je peux dire. Ouais. Donc, il va falloir qu'il démystifie tout ça, pour que les autres disent, bon, ben, ça va, ils commencent à nous balancer ça au public, il va falloir qu'on arrête et puis voilà, qu'on prête.
C'est Gérard Majax, en fait, le héros.
Oui, c'est tout à fait Gérard Majax, voilà.
Toujours cette Égypte, et justement sur l'influence des dieux, même si c'est vrai qu'on en reparlera peut-être un petit peu plus en détail avec Philippe, ce sera demain, sur les héros de l'Antiquité, mais quand même, comme vous l'avez dit tous les deux, la particularité, c'est qu'ils sont vraiment, quand ils apparaissent, alors sauf quand Isis est vraiment en colère, parce qu'on sent qu'elle a... Il ne faut pas moufter à ce moment-là, mais dans l'ensemble, effectivement, ils apparaissent de manière assez naturelle dans la vie quotidienne des gens. Comment ils sont considérés, ces dieux, par le peuple égyptien et même par, quelle est la relation, par exemple, par rapport à Pharaon ?
Alors, les humains, de façon générale, dans tous les mondes de cet univers qu'on a construit, savent qu'ils ne sont que des grains de poussière devant les dieux qui sont absolument tout-puissants et qui peuvent... Donc finalement, d'une part, ils les vénèrent parce qu'ils ont bien conscience qu'ils sont extrêmement puissants. En plus, un dieu a tendance à protéger ceux qui le vénèrent, donc ça mange pas de pain, comme on dit. On va toujours faire le culte de un tel, comme ça on bénéficiera de sa protection. Certains humains les détestent, comme Lasser, qui, bon, est obligé évidemment de plus ou moins de se prosterner. Enfin, il a du mal. Mais en même temps, intérieurement, il déteste cette espèce de pouvoir qu'ils ont sur lui. Et en gros, les humains les subissent. Ils les subissent, ils sont habitués à leurs caprices, à leur colère, à aller les voir apparaître, disparaître. Et donc, en gros, ben là, c'était une façon de parler un peu du pouvoir et de ce pouvoir absolu et d'en montrer les dérives.
Parce que malgré tout, il y a quand même ce pouvoir de Pharaon, y compris avec une police qu'on voit assez présente.
Oui. Oui, parce que finalement, les dieux, bon, les affaires des hommes, ça les intéresse moyennement. Donc, ils les laissent se débrouiller entre eux, jusque dans une certaine mesure, et au moment où ils ont envie d'apparaître pour avoir ceci, cela, ou de régler des choses qui les énervent, et alors en plus, leur grand jeu aux dieux, c'est de se voler des croyants. Hein, parce que, évidemment, c'est un peu le hit parade de bah, « moi, il y a plus de gens qui croient en moi, donc je suis plus fort que toi ». On le voit chez les Gaulois, tel dieu va aller bousiller le temple du dieu d'à côté, comme ça, il veut récupérer les croyants, ou « je veux me venger de toi, je tue les hommes qui croient en toi ». Enfin bon, c'est extrêmement dangereux de vivre dans ce monde-là. Mais sinon, à part ça, il y a toute une organisation sociale avec Pharaon qui a du pouvoir sur ces gens, mais qui est quand même redevable envers les dieux. Sauf que quand il le laisse tranquille, il peut faire son travail de pharaon tranquillement.
Oui, et puis comme le disait Sylvie, je crois qu'il y a aussi le combat entre les dieux. Je veux dire qu'on a gardé aussi la mythologie, par exemple, Isis et Seth. Je veux dire qu'il y a la mythologie, ils ne pouvaient pas se voir. Je veux dire, dans notre monde à nous, ils ne peuvent toujours pas se voir. Là-dessus, voilà. Donc il y a toujours des dieux qui sont au milieu, il y a Osiris qui est au milieu. Il y a toujours aussi ce combat aussi avec les dieux étrangers, parce que certains dieux étrangers veulent venir s'installer en Égypte. Certains dieux égyptiens veulent s'installer à l'étranger. Donc on a toujours ce combat des dieux entre eux. Et qui sait qui en paye le prix ? C'est toujours les humains. Et comme je dirais, c'est toujours le cas presque aujourd'hui.
Sauf Vulcain, finalement, qui est venu s'installer en Égypte pour avoir une vie un peu plus pépère.
Voilà, Vulcain, lui, il voulait construire de belles bagnoles. Lui, c'était sa vie. Sa vie, c'était les voitures. Et à l'Etna, c'était pas terrible. Donc lui, c'était... faire les belles voitures.
Donc lui, il n'embête personne.
Il n'embête personne, non, mais les dieux l'embêtent parce que les dieux veulent toujours la plus belle voiture que l'autre. Donc c'est pour ça que certains dieux, il y a Bacchus, lui, qui ne passe toujours qu'à boire et à faire la fête. Mais bon, on ne va pas le changer depuis le temps. Hein. C'est trop tard. Hein.
Et donc effectivement, la description qu'on donne des dieux, on s'est vraiment appuyé sur tout le panthéon et notamment, alors ça, dans la mythologie égyptienne, les histoires de famille, Seth, Horus, Isis, il y a des choses qui sont absolument, c'est des horreurs intégrales. Bon, on les retrouve là. On les retrouve, on les a gardés. Et
dont une des nouvelles qui consiste à retrouver le 14e morceau.
Le 14e morceau d'Osiris. Donc je ne dis pas de quel morceau il s'agit, mais
on en parle
c'est
avec
celui effectivement qui n'a pas été retrouvé dans la mythologie.
Le même pour ceux qui étaient au café d'avant qu'on cherche chez les elfes, si vous voulez. Et Béatrice, alors, l'œil de Seth, on a vu un petit peu le contexte historique dans lequel on est créé, on est présenté, mais il se trouve qu'on est au début dans un contexte très modeste, finalement, dans un village loin des centres de pouvoir, on va dire.
Oui, oui.
Et puis, petit à petit, l'histoire va se déplacer parce que le personnage principal, Séni, on va venir le chercher.
Oui, j'avais envie de faire quelque chose qui s'installait un petit peu, une certaine tension à partir de quelqu'un qui vient chercher ce jeune qui pense être un fils de médecin en lui disant ben, tu vas venir avec moi. Ce jeune s'aperçoit que c'est ce qu'il croyait de ses parents le laisse faire et il apprend qu'il a été adopté. Et la personne qui est venue le chercher est un haut fonctionnaire du palais de Pharaon et il installe ce gamin dans sa maison de vacances. Parce qu'il faut savoir que les fonctionnaires royaux avaient ce qu'ils appelaient les maisons des champs, donc c'est dans les marais. Ça donne une occasion aussi de montrer ce que c'était qu'un grand domaine. Sa femme fait du tissage, par exemple, il y a des ateliers de tissage. Donc il débarque là en pensant que le lendemain, on va tout l'expliquer. Et puis
avec le champ qui va avec, c'est-à-dire avec les champs, le lin, mais pas seulement, aussi ce qui permet de colorer les tissus.
Voilà, les plantes tinctoriales et tout ça. Donc on va découvrir un petit peu tout ça. On va lui faire comprendre qu'il est mal habillé, qu'il est mal coiffé. On va le vexer un petit peu. On va lui apprendre l'histoire de l'Égypte. Il ne comprend pas à quoi ça va mener. Et ben la personne qui, le haut fonctionnaire qui l'a donc pris avec lui, va être assassiné. Alors là, ça va être la panique parce que ben il est plus dans sa famille qui croyait sa famille naturelle et la personne qui devait soi-disant lui révéler des choses a disparu. Donc il va devoir plus ou moins enquêter tout seul. Et on va à partir de ça se retrouver dans le palais et le harem de Ramsès III. Parce qu'il faut savoir que pour écrire cette histoire, je me suis quand même fait plaisir. Je me suis inspirée d'un vrai fait divers qui s'est passé sur Ramsès III, qui est une conspiration de palais. Et qu'on a retrouvé à travers deux papyrus qui relatent le procès. Et moi, ce qui m'a fait complètement craquer, c'est que les papyrus donnent la liste, bien sûr, des conjurés qui voulaient assassiner Pharaon et qui ont probablement assassiné Pharaon, puisqu'on a fait des découvertes récentes sur la momie de Ramsès III, et qui ont voulu assassiner son fils héritier désigné pour mettre à sa place le énième fils d'une énième concubine. Parce que les pharaons avaient pas mal d'épouses et évidemment pas mal d'enfants. Et chaque décès de pharaon était suivi par des guerres entre frères, hein, de manière très classique, comme en Turquie. Où j'en étais ? Oui, donc il y a eu effectivement un complot pour assassiner Pharaon, son fils, et mettre le fils d'une concubine à sa place. Et les papyrus qui racontent ce complot donnent la liste des conjurés et disent un truc que je trouve craquant, que les conjurés sont entrés dans le palais grâce à la magie. C'est-à-dire, imaginez qu'on ait un compte-rendu d'audience aujourd'hui disant ils ont utilisé la magie, il y a un vent qui a soufflé, ils ont pu entrer dans le palais grâce à la magie. Alors, c'est extraordinaire, quoi. Donc, il y a à la fois le côté un peu administratif, paperassier et fonctionnaire de l'Égypte, qui faisait tout en trois exemplaires. Hein. Quand on créait un temple, il y avait trois papyrus recopiés un peu partout. Et puis, pof, il y a la magie qui apparaît très naturellement, quoi. Donc je me suis inspirée de ça pour parler de ces intrigues de palais, de harem, où il y avait, ben, comme dans tous les harems, des épouses qui végétaient et qui passaient leur temps à dire du mal de la copine que le pharaon avait choisie la veille. Bon, voilà, c'est un milieu qui est quand même propice aux intrigues policières.
Et à s'aigrir profondément. Hein,
oui, et à s'aigrir profondément. Ben, je sais qu'il y a des historiens d'Égypte qui ont une vision en disant « mais c'était très différent des harems turcs ». Oui, ben, n'empêche que, bon, elles n'étaient pas cloîtrées, c'est sûr. Il n'y avait pas de mouches à elles n'étaient pas enfermées, mais n'empêche qu'elles ne pouvaient pas...
Oui, c'est une vraie disgrâce. On est vraiment...
C'est pas une disgrâce, c'est un honneur. Mais elles ne peuvent pas être amoureuses d'un autre, très classiquement. Hein. Donc voilà, si Pharaon ne couche jamais avec elles, qu'il n'a pas d'enfants et autres, elles vont vieillir dans un milieu fermé. Alors peut-être avec des titres... deux grandes dames de la maison de danse et tout, parce qu'elles avaient quand même... certaines avaient un boulot, quoi, même dans ce harem. Elles s'occupaient des danseuses, des musiciens ou autres. Mais bon, c'était quand même une vie qu'on leur imposait.
Alain, bah on voit que la magie, finalement, elle est omniprésente dans cette Égypte. Le fait d'utiliser la magie blanche... Alors qu'on pourrait s'attendre aux imaginales d'avoir un roman qui traite plus de magie noire, finalement, hein, quelque chose qui soit vraiment du domaine du fantastique.
Un petit canard. excusez-moi.
Non, mais c'est intéressant. Oui, justement,
moi,
de...
volontairement, je voulais passer à côté de ça, parce que ça, c'était pour moi l'image d'Épinal. donc là, j'ai vraiment voulu là, dire bon, très, très spécifiquement ce qui se passait. Bon, à un moment, par exemple, le jeune héros propose quelque chose pour que le pharaon assure son autorité, c'est d'élever des oiseaux sortis du nid, et que, donc c'est pas pratique, hein, mais à long terme, c'est un truc à long terme, mais de leur donner de la nourriture dans l'oreille, mettre des graines dans l'oreille du pharaon pour que les oiseaux viennent. Et une fois qu'ils sont assez doués pour faire ça, enfin éduqués, alors après, vis-à-vis des foules, on dit, écoutez, voilà, tous les oiseaux vous observent et viennent rapporter ce que vous faites au pharaon. Et là, c'est les caméras de l'époque. Hein. Regarde. Effectivement, la démonstration est faite. Ils lâchent les oiseaux et à ce moment-là, les oiseaux viennent et tout. Donc ça a été fait. Hein. Ça a été fait.
C'est finalement, ça devient aussi fascinant que du fantastique
oui,
pur.
Oui, et puis donc c'est ces portes de temples qui s'ouvrent alors qu'ils font un foyer et ce foyer donc dilate l'eau et fait tourner des cordes et à ce moment-là ouvre et dès que le feu s'éteint, les portes se referment. C'était Walt Disney hein, pour l'époque, hein, la religion. Là, et tout. Donc on pouvait arriver à faire avec des choses très, très physiques, des choses effectivement très magiques.
Quoi. À tel point finalement qu'aujourd'hui, on se pose encore des tas de questions sur une partie de cette civilisation, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre.
Oui, qui sont peut-être tout simplement basiques, et, enfin basiques, très recherchées, mais tout à fait explicables.
Cette Égypte uchronique, de fantaisie, justement, elle, c'est aussi de fantaisie en l'écrivant à la française. Hein. Il y a beaucoup de drôlerie dans ces romans. Ça passe aussi par certains personnages qui sont un peu ridiculisés. Je pense au chef de la police. Mais il y a aussi d'autres personnages qui apparaissent et qui alors sont plein de clins d'œil que vous avez voulu faire. Un peu tout azimut. Hein. Ça va dans tous les domaines. Hein.
Bah, y a des tas de clins d'œil un peu référentiels parce qu'on a voulu un peu toucher l'humour et donc on a forcément bah, y a des noms de personnages qui vont évoquer des gens qu'on connaît. Certains personnages carrément qui ont été calqués. Je prends le personnage de Fazimel où là bah, ça remonte à une espèce de joke qu'on avait fait il y a super longtemps. Il y a une bonne dizaine d'années avec Mélanie Fazi, donc auteure, traductrice et amie, qui à l'époque travaillait comme réceptionniste dans un hôtel, et puis on l'avait charriée, puis on lui avait dit, toi un jour tu seras dans une nouvelle. Et évidemment, bah, le Fazimel, c'est la fidèle assistante de la serre, qui est réceptionniste du cher Amon. Donc le cher Amon et non pas Sheraton, et ainsi de suite. Alors après, avec notamment le célèbre joueur de oud électrique, Elric Tapton, bon, etc. Bon. Alors évidemment, c'est des tas de clins d'œil.
Barre de Breton.
Oui, barre de Breton, absolument, très important. Donc évidemment, on s'est un petit peu amusé à faire des clins d'œil sur... de même que nous avons un célèbre universitaire, Hugh Agamba, donc et ainsi de suite. Alors bon, évidemment, les gens qui connaissent un peu le milieu vont retrouver les clins d'œil et ça amuse. En même temps, celui qui connaît pas, il rate rien et voilà.
Mais c'est amusant. Je me suis laissé dire que même Philippe était dans le.
Oui, même moi.
Parmi les personnages.
Voilà, parce qu'il y a un taureau ailé qui s'appelle Happy 13 et. Non, c'est le taureau voilà, qui tient nos boîtes de nuit. Et Happy, c'est Happy 13, c'est mon... C'est mon adresse mail. Donc Happy, c'est le deuxième nom. Mais aussi, je veux dire, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, vous avez tous les Toons qui apparaissent. Et bien, nous aussi, c'est pareil, on a voulu plein de personnages. Hein. C'est plein de petits personnages. Vous avez le fameux Wabou, le chat qui parle, hein, qui est un dieu, donc qui se transforme en chat. Donc on a voulu plein. Tu le sais de ça, d'entrée, tu le sais. Oh, si.
Moi, j'aime beaucoup Sphinxy, moi.
Voilà, il y a Sphinxy aussi, qui est un indique. Pareil, tu dirais
indique
que dans...
Indique muet.
Voilà, dans voilà, dans chaque roman policier, il y a toujours l'indique. Donc, nous, on a voulu un indique, c'est un Sphinx, qui fait des... Qui, voilà, et il dit jamais la vérité comme il faut. Donc, là, et puis, on n'a pas eu de chance, on l'a fait mourir. Dans notre, au début, on l'a fait mourir. On était idiots, là. On s'est dit, comment on va pouvoir rattraper cette bêtise, hein. Voilà. Mais voilà. Donc c'est vrai qu'on a mis plein de petits personnages tout autour qui reviennent, qui apparaissent, qui vont disparaître, qui vont revenir. Dans le tome 1, le tome 2, le tome 3, on va en trouver. Et c'est, je vous dis, c'est moi, c'est, dans ma tête, c'est toujours c'est Toons qui apparaissait avec le détective, je sais plus quoi, avec, et Jessica. Donc c'est tous ces personnages qu'on a voulu. Il n'y a pas que le détective, il y a tout un petit monde qui va tourner autour de lui.
Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le premier, on a un Lasser qui est solitaire, mais qui n'est pas que solitaire, il est seul tout simplement parce qu'il est dans cette Égypte qu'il connaît mal, où il ne se plaît pas. Alors, il y a des raisons, le fait qu'il y ait échoué explique aussi pourquoi il est dans cet état d'esprit. Sauf qu'au fur et à mesure, tous ces personnages qu'il croise vont devenir un peu son fil conducteur, comme un réseau qui se crée au fur et à mesure.
Bah, on s'est dit que finalement, lui, il arrive de Gaule, en fait, il débarque en Égypte, il est un peu paumé, il a fui la Gaule pour un certain nombre de raisons. Et bah, au départ, il est tout seul, il végète un peu dans son coin. En plus, il ne connaît pas bien la langue. Et bon, en plus, être détective, il faut inspirer confiance. Donc, et petit à petit, il s'installe dans ce pays, il apprend à le connaître, et puis il commence à se faire des relations. Et puis justement, c'est finalement quelqu'un qui est assez torturé, mais qui n'est pas méchant et qui est, on en vit, on l'aime bien. Et les gens, les personnages qu'il côtoie, comme Wabou ou autre, finalement découvrent que c'est quelqu'un qui a un cœur d'or, l'aime bien. Et en donnant leur amitié, ils vont le faire évoluer. Et c'est pour ça qu'on le voit au fur et à mesure des intrigues, et puis particulièrement dans le tome 2, il réalise qu'il n'est plus tout seul. Il s'est fait des amis et ça va changer petit à petit sa vision du monde. Et de toute façon, au fil des tomes, il va continuer à évoluer.
Et sa personnalité. Parce que dans le premier, dans Imprévis sur le Nil, c'est quand même pas le plus courageux des détectives qui soit. Dès qu'il y a du danger, il a plutôt tendance à vouloir prendre la tangente que vraiment à l'affronter. Ce qui est beaucoup moins le cas déjà dans Mariage à l'Égyptienne.
Bah, disons qu'il se sent un peu plus soutenu, il prend confiance en lui. Et c'est un espèce d'adolescent attardé parce qu'il a eu une enfance ratée. Enfin bon, on explique un certain nombre de choses. Et finalement, lui-même, il va grandir à travers tout ça. Mais ça ne sera jamais un grand courageux. Mais quand il faut, il est capable de prendre le taureau par les cornes. Et surtout quand il se met en colère, en réalité, il devient courageux. Quand il s'indigne.
Il y a encore un moment où on est obligé de lui donner un petit coup de main quand même dans Mariage à l'Égyptienne. Parce que voilà, il faut lutter contre le vertige, il faut lutter contre le plongeon. Ouais, ouais, mais sinon, effectivement, la métamorphose est vraiment assez impressionnante dans l'évolution du personnage.
On souhaitait avoir un personnage qui évolue parce que c'est plus intéressant et on a encore matière à le faire évoluer dans bien des directions.
Et dans votre monde, il continue à construire des pyramides en plus ?
Oui, oui. Ah, oui, 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 sur le plateau de Gizeh, il y en a 9. Voilà. Et donc les Medjay, justement, quand quelqu'un fait des bêtises et que la police attrape, il est menacé d'aller casser des cailloux. Hein.
Non, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a encore la bibliothèque d'Alexandrie. Voilà, et que là, ça devient carrément beaucoup plus intéressant. Ça donne de nouvelles perspectives.
C'est Ulagamba qui va en prendre la direction, un grand universitaire bien connu.
Ça donne de nouvelles perspectives de tourisme dans la région.
On a le phare aussi qui est toujours là.
Et oui. Béatrice, cette vie quotidienne en Égypte. On l'a dit, elle passe par beaucoup de choses. Elle passe aussi par l'alimentation, qui a un rôle important dans cette histoire. Là aussi, ça a nécessité de la recherche, du travail. J'allais dire presque du travail manuel. Est-ce que vous avez testé certaines recettes ?
Oui, bien sûr que j'ai testé. Mais déjà, je suis dans une collection là, de Gulfstream, où on a, dans la collection qui s'appelle Courant Noir, ce sont des policiers historiques spécialement destinés aux adolescents. Et c'est, à ma connaissance, la seule collection de polar historique spéciale ado. Et à la fin de chaque livre, on a des petites annexes marrantes, rigolotes et instructives. Et là-dedans, normalement, au début de la collection, en tout cas, on mettait chaque fois une recette de cuisine. Donc je me suis dit, je vais m'éclater, ça va être facile. Mais ce n'est pas si facile. Parce que j'ai acheté les deux seuls bouquins connus, sur la cuisine égyptienne. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a énormément d'iconographie. C'est-à-dire, il y a des scènes superbes, que ce soit des sculptures dans les tombes ou des peintures. Mais la recette en elle-même... Est-ce que c'est rôti ? Est-ce que c'est bouilli ? Est-ce que c'est grillé ? On a des idées d'ingrédients. Il y a des choses sur lesquelles les historiens ne sont pas d'accord. Je donne un exemple tout bête. Il y a des scènes où il y a des hyènes qu'on gave. Alors il y a des historiens qui ont dit, les Égyptiens avaient inventé le foie gras de hyènes. Et d'autres qui se sont dit, mais non, c'était pour les faire manger parce qu'ils servaient des hyènes pour chasser. Vous voyez le genre de truc tout bête, quoi. Bon, donc j'ai pas mis de foie gras de hyènes de recette à la fin parce que j'avais aucune envie de tester ça. Puis je manquais un peu de matière première, en fait. Et j'ai épluché tous les bouquins de cuisine égyptienne. J'ai vu que les auteurs expliquaient qu'ils s'inspiraient gentiment de la cuisine égyptienne actuelle, donc c'était un peu enquiquinant. Et j'ai regardé, la recette que je donne à la fin, c'est un petit pain fourré au fromage dans lequel j'utilise, honte à moi, une vache qui rit, parce que c'était les Égyptiens n'étaient pas spécialisés en fromage quand même. Le fromage n'était pas leur spécialité. Voilà, il y avait beaucoup de recettes de caille, des recettes de lentilles. Il y a des trucs marrants, par exemple les personnes édentées, c'est-à-dire soit les vieillards qui avaient plus de dents, soit les petits qui n'en avaient pas encore, ils mangeaient du cœur de papyrus rôti, enfin, comment dire, cuit sous la cendre. Ça, j'aimerais bien savoir de quoi ça avait goût. Et pour finir avec une anecdote rigolote, j'avais commencé par écrire 5 petits romans historiques qui étaient destinés aux plus jeunes chez Fleurus. Et Fleurus a une tradition de livres quand même éducatifs. Et ce qui ne plaisait pas du tout à l'éditrice, c'est que je faisais boire de la bière à tout le monde. Mais ils buvaient de la bière. Les enfants buvaient de la bière parce qu'il n'y a pas de source. Hein. L'eau du Nil, bon, c'est quand même pas très gastronomique. Donc j'ai mis une petite note en bas de page parce qu'on a négocié avec l'éditrice. Les enfants buvaient de la bière en Égypte. Ne faites surtout pas ça. Mais elle était plus légère que la nôtre.
Non, c'est pas la même. Il y a une scène. Alors en plus, c'est une scène dramatique. On va pas trop en dire dessus. Mais il y a un des personnages qui trouve que la cuisine est trop épicée. Ça m'a paru surprenant parce que moi, j'avais tendance à plutôt me dire que, comme souvent dans ces époques-là, au contraire, ça devait déjà être quand même assez fort en bouche.
C'est pas l'Inde, hein, quand même, l'Égypte ancienne. C'était savoureux, mais j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement épicé. Déjà, la plupart des épices, ils les connaissaient pas. Ça avait du goût, c'était savoureux. Il y avait du miel, il n'y avait pas de sucre naturel. Est-ce qu'il y avait du piment? J'en sais rien. Bonne question. Je pense pas qu'il y avait du piment. Il n'y avait pas de poivre. Donc non, c'était bon, c'était rôti, c'était des ragoûts, beaucoup de choses cuites à l'étouffée, mais c'était pas épicé. Enfin, il y avait des herbes, quoi.
Oui. Hein,
mais oui. C'est comme les pierres précieuses. Il n'y a pas de diamants en Égypte. Il y a des pierres dures. Pour les parfums, il y a aussi beaucoup de fleurs qu'ils ne connaissaient pas. Donc, des fois, on véhicule des images, on imagine une cuisine épicée, on imagine des parfums très forts et on imagine des pierres et des joyaux. C'était un peu différent.
Là aussi, Alain, il faut rentrer un peu dans les explications du fonctionnement de cette société, de ce qui peut s'y passer pour que, en plus, un jeune public comprennent bien.
Oui, il n'y a pas d'histoire d'âge. Là, à partir du moment où on s'attache à une époque, il faut la rendre la plus crédible possible avec un maximum de documentation. Voilà, là, c'est l'artisan qui cause, quoi. Enfin, je veux dire, il faut y aller. Alors, c'est vrai que des fois, on passe une matinée à chercher un truc qui va faire 2 lignes dans le roman. Donc on n'est pas très content du tout parce qu'il faut le chercher un moment. Mais je pense que c'est le jeu.
Et des fois, on ne s'en sert pas.
Oui.
Hein, en plus, sûr. Une fois qu'on l'a trouvé, on se dit, bon, ça ressemble à
oui,
rien.
Finalement, oui. Voilà, relecture, on raye, on pompe. Oui, mais bon, il faut se méfier aussi d'Internet, donc du coup, il faut se replonger dans les livres. Donc voilà, il faut rendre ça se passe à cette époque-là, il faut raconter la chose le plus vrai possible. Alors bien sûr, le plus vrai possible par rapport à ce qu'on a, ce qu'on a récupéré, ce qui est certainement, il y a peut-être là-dedans 30%, 40% de faux. Mais
oui, voilà, il y a une interprétation avec notre regard.
Mais c'est pas la mienne pour arranger le coup, quoi. C'est vraiment parce qu'on en est là, quoi. Voilà.
Et justement, cette culture si particulière, elle peut servir facilement à nourrir l'intrigue.
Bon, oui. Ça. Oui. On avait dit pas d'attaque sur le physique, hein, donc oui, ça nourrit son. Non, mais bien sûr, parce que n'importe quelle époque, à partir du moment où vous mettez des rapports humains et puis une intrigue qui se passe, ça coule de source, il n'y a pas de problème. Hein. Non,
oui, puis la documentation, le travail sur la doc nous donne des idées, ça
oui,
c'est sûr,
sûr, sûr.
Des choses qu'on n'aurait pas imaginées.
Notre détective et nos dieux, alors ouais, justement, parlons un peu de ce panthéon égyptien. On a déjà dit un petit mot, ils sont quand même assez, parfois à couteau tiré entre eux. Mais vous les avez bien assaisonnés quand même, hein, au niveau de la présentation les uns les autres. Moi, j'aimerais qu'on parle, puisque le roman de Béatrice Égémard s'appelle L'œil de Seth. J'aimerais bien qu'on dise un mot de Seth, qui est quand même un personnage important dans ces histoires.
Oui.
Et dont vous avez fait, comment dire ça, élégamment.
disons que nos dieux, c'est un peu notre vision, et comme on est dans quelque chose où il y a c'est décalé volontairement, on est dans de la fantaisie. Donc on a essayé de grossir le trait de ces différents dieux, on les a rendus un but d'eux-mêmes, et forcément Seth, qui était un peu quand même un méchant, qui était en tout cas décrit dans les mythes comme étant assez mauvais, nous, on s'est dit, on va en faire un peu un méchant à la Tex Avery, c'est-à-dire un méchant qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Et qui, pour le coup, à chaque fois qu'il essaie de jouer le méchant, alors il est réellement dangereux parce qu'il est assez stupide et qu'avec le pouvoir qu'il a, il peut vraiment causer beaucoup de dommages, mais il essaie de se la raconter vis-à-vis des hommes. Alors, il va frimer en prenant des costumes de mafieux de l'époque.
C'est
où
le
il va,
Al Capone du pauvre. Hein.
Le Al Capone du pauvre, quoi, parce qu'à chaque fois, ça tombe à plat. Alors lui, il est absolument ravi de ses effets, mais parce qu'il est tellement imbu de lui-même qu'il ne se rend pas compte qu'il devient ridicule. Donc on l'a un peu tourné en ridicule.
Et vos dieux ont évolué à travers les siècles.
Absolument, absolument. Ils ont évolué, donc ils sont plus modernes. Voilà, quand je disais, ils aiment bien les belles voitures. Ils achètent des avions pour faire circuler leurs fidèles, parce que eux, évidemment, ils peuvent se déplacer n'importe où. Enfin voilà, donc ils se sont un petit peu modernisés. Oui, ils font là. Oui, oui. Ils sont dans Papyrus News.
Les papyroïdes.
Oui. Les papyroïdes, voilà.
Et ils jouent au foot, non? Parce que...
Pas encore. Ça va peut-être venir. Oh non, faut pas leur filer des idées.
Le foot, ça va arriver dans quelques années. Non, moi, quand j'écris les scènes sur 7, moi, j'ai toujours dans ma tête Ville Coyote. Et Bibi, moi, c'est Ville Coyote que j'ai là quand j'écris sur 7.
Et surtout qu'il a une fascination aussi pour les sports de combat.
Oui, voilà, la boxe. Surtout la boxe.
C'est-à-dire que voilà, il veut être absolument puissant, etc. Donc il adore tout ce qui est violent, tout ce qui est. Mais en même temps, il est assez ridicule. Et d'ailleurs, il se fait assez rapidement rabattre son caquet par Isis à chaque fois quand elle arrive.
Il a un côté méchant de James Bond aussi.
Oui.
Il y a un moment où il y a une fosse qui s'ouvre avec des crocodiles
absolument
à l'intérieur. Donc il y a encore là aussi un petit mélange qui vient se détendre.
Oui, bah oui, forcément. C'est un mélange de plein de choses qu'on a vues, entendues ou. Et je ne sais pas d'ailleurs où on va les trouver, les idées, mais...
La mythologie égyptienne est tellement fournie, je veux dire qu'à une époque, je faisais la collection des petites statues de dieux, je dois en avoir 200 ou 300. Il y a tellement, je veux dire tellement de dieux, même des dieux, Osiris a changé de nom au Foucault, Isis, Seth, pareil, Seth est devenu un gentil. Je veux dire que pour des auteurs, c'est vraiment... On a que l'embarras du choix.
Surtout que 7 en plus, il devient, et justement c'est peut-être là où on voit l'évolution, il devient systématiquement le coupable idéal. Dès qu'il y a un mauvais coup.
Voilà. Et c'est jamais lui.
Voilà.
Voilà. Mais c'est vrai que, je veux dire, dans le panthéon égyptien, je ne sais pas comment ils doivent en avoir. Je veux dire, chacun, dans 3000 ans, ils ont même changé de nom, X, Y, quoi.
Oui, parce que ça a duré vachement longtemps. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, ils ne communiquaient pas forcément d'un bled à l'autre. C'est-à-dire que chaque région avait sa mythologie, sa création du monde, sa vision d'Isis. Et moi, tu vois, ça me trouble, ça.
Plus
toi, tu dis
nouveaux,
que c'est riche et que tu trouves des idées. Moi, je m'y perds. Je trouve que la mythologie grecque est plus cohérente,
oui,
parce qu'elle est plus ramassée.
Plus
tu
ramassée,
vois.
Oui, oui.
Donc tu imagines bien à quoi ressemblait Héra, tout ça. Alors que quand tu commences à te faire une idée un peu précise d'un dieu égyptien, tu lis un autre mythe et merdouille, ça te casse tout.
Il a encore une autre tête, ou il n'est pas vu pareil.
Oui, oui, oui. Il a une identité différente, mais quand tu vois.
Et quand ils se mettent à marier deux dieux ensemble aussi, avec les deux noms. Enfin, c'est vrai que c'est, pour le coup, pour celui qui est un peu puriste et qui veut chercher. Alors c'est vrai qu'en plus, Seth, quand on regarde en fonction des époques, il n'est pas forcément vu pareil ni rien.
C'est un méchant utile.
Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on s'est dit que on allait prendre un peu les archétypes là-dedans, et comme c'est les années 30, on imagine qu'ils ont évolué, et donc on prend des libertés, mais tout en respectant quand même la mythologie, les histoires de famille, les conflits entre les uns et les autres.
Comme quoi, la bière.
Il n'y avait pas que la bière, hein, le vin de palme aussi.
Le vin de palme aussi, oui.
Moi, je suis pas sûr qu'ils boivent que ça, les deux là, quand ils écrivent. Hein, ouais. Béatrice, on a évoqué cette structuration sociale qu'on voit très bien dans le roman au fur et à mesure, puisque finalement c'est aussi une quête initiatique d'un personnage, mais cette quête c'est aussi un peu une ascension sociale indirectement. On voit à quel point les rôles des uns et des autres, avec aussi des nominations qui aujourd'hui paraîtraient différentes dans la manière dont on les appréhende. Quand on parle d'un intendant, par exemple, on a quelqu'un qui, dans ce système-là, a un pouvoir gigantesque.
Oui, oui, c'est un peu l'homme de confiance, en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, oui, la structure des fonctionnaires dans le palais de Pharaon et dans le harem, c'est ça. Hein, et l'ami de Pharaon aussi, qui était un peu un favori. Oui, tout à fait, les dénominations ont changé, les majordomes, les intendants ne correspondent pas à ceux qu'on a connus, nous, peut-être. Peut-être que les historiens ont eu du mal à traduire des fonctions dont ils ne connaissaient pas exactement l'étendue à l'époque. Ils ont mis un nom qui a été figé. Et puis après, on se retrouve avec des choses qui ne parlent pas à notre imaginaire. C'est possible, oui.
Avec là aussi l'importance de la communication, vous en parliez, mais le fait qu'ils soient importants de savoir écrire, et on imagine que l'écriture...
Alors, c'était quelque chose, on écrit ou on n'écrit pas dans la société égyptienne, un peu comme l'éclair chez nous au Moyen-Âge, c'était un pouvoir d'écrire. Et je cite dans le roman des choses qui sont une source d'inspiration et de connaissance pour les gens qui s'intéressent à l'Égypte, c'est ce qu'on appelle les sagesses. Les sagesses, c'est des textes égyptiens qui, en général, étaient écrits pour instruire un plus jeune que soi. Et on voit très bien, à travers ces sagesses, comment ils considéraient les métiers. Et ce qu'on appelle la satire des métiers, c'est un scribe qui parle à son fils ou à son apprenti et qui dit « Mais sois donc scribe, comme ça tout le monde t'obéira, même si tu es jeune, tu seras respecté. Par contre, si tu es boulanger, tu risques de tomber dans le four. » Ah ben tiens, on apprend que les fours étaient grands. On apprend qu'il n'y avait pas de rempart de sécurité. « Si tu es maçon, tu vas t'épuiser sous le soleil. Si tu es soldat, tu ne vivras pas vieux. Sois scribe, c'est peinard, entre guillemets, c'était un peu ça, quoi. » Donc c'est intéressant tous ces textes littéraires parce que c'est ça qui nous permet de voir au plus près comment eux considéraient leur époque et les métiers. Scribe, c'était le pouvoir. Oui.
Et même au regard, moi j'étais frappé en lisant L'œil de Seth, il y a un moment où on rejoint une actualité quasi contemporaine à Assisi. On évoque une campagne en Libye. Et l'inimitié très forte entre les Libyens et les Égyptiens.
Les Libous, c'est les ennemis traditionnels des Égyptiens. Les Égyptiens n'étaient pas énormément belliqueux, mais ils se défendaient très très bien lorsqu'on venait leur chercher des puces. Tout à fait. C'était le ville libyen.
Les choses n'ont pas tellement évolué.
Voilà, c'est la géographie.
Le voisinage n'a pas forcément toujours changé.
Il faut être humble devant la géographie naturelle.
Alain, puisque... Tu nous l'as dit, l'Égypte n'est pas forcément ta tasse de thé, contrairement à nos autres intervenants. Est-ce que ça t'a quand même donné, pourquoi pas, des envies? Est-ce que c'est une porte que tu vas laisser entrouverte si jamais l'opportunité se représente?
Le magicien des pharaons, le retour? Non, vous avez pas...
pas forcément.
Non, c'est-à-dire, moi j'écris principalement de la science-fiction, mais de temps en temps j'aime traîner dans l'historique. Donc je me suis beaucoup intéressé aux migrations... intérieur de la France au 19e avec les maçons creusois, parce que je suis creusois d'origine, donc c'est eux qui ont fait à peu près tous les travaux haussmanniens en partant de la Creuse. Donc à l'époque, ils avaient le gouvernement avait la trouille parce qu'il y avait 15 000 hommes qui partaient comme une armée qui traversaient la France en 5-6 jours pour aller place de grève. Ça vient là, la grève, hein, faire grève, ça vient de la place de grève parce qu'on attendait le patron, les gens le matin venaient à l'embauche, les gens venaient, moi j'en veux 3, j'en veux 4, je veux un maçon, je veux un garbard, donc ça va faire place de grève, d'où l'expression faire grève. Donc il y avait cette migration-là, ils avaient un passeport de l'intérieur, c'était les immigrés de l'intérieur, ils étaient mal considérés parce qu'ils parlaient patois, ils travaillaient pour rien, enfin bon, il y avait tout un tas de choses. Je me suis intéressé aux nourrices, les nourrices qui là aussi migraient, soit du Morvan, soit de la Bretagne, pour aller faire une nourriture. Qu'est-ce que c'était de faire une nourriture? C'était donner le sein à un enfant de la haute bourgeoisie parisienne de l'époque, effectivement, avec tout ce que ça entraînait, c'est-à-dire que bon, pour avoir du lait, il fallait avoir soi-même un nouveau-né. Donc elles amenaient ce nouveau-né dans les maisons de placement. Il y avait des médecins dont le boulot consistait à avoir une cuillère d'argent et de presser le sein de ces dames et de goûter le lait pour savoir s'il était bon. C'était un des examens de passage pour être dans les maisons de placement. Puis après, une fois qu'elles étaient placées, on renvoyait l'enfant à la campagne où il avait, je crois que les statistiques, c'était 75% de chance, entre guillemets, de mourir. Donc ces femmes sacrifiaient leur propre enfant pour aller nourrir un propre... Voilà, ça, il y a un siècle et demi de ça. Donc je me suis intéressé là-dessus, sur ces choses. L'expansion du chemin de fer aussi. Enfin, voilà, j'aime bien de temps en temps faire un petit aparté dans l'historique.
Et est-ce que ça peut nourrir justement aussi le travail de science-fiction, ces recherches et ce travail sur l'histoire?
Oui, parce qu'il y a des constantes de quelqu'un. Moi, j'essaye toujours d'appliquer une règle qui est un voyage technologique, un voyage géographique et un voyage initiatique. Voilà. Et ça, quelle que soit l'époque, ça marche. Donc, que ce soit historique ou science-fiction, le héros va partir à un endroit. Soit se grandir, soit s'avilir, soit enfin, plein de choses, mais en tout cas, ça va le transformer. Voilà. Donc les constantes sont là. Hein. Mais dans les rapports humains, on voit bien les mesquineries, qu'elles soient en Égypte ou qu'elles soient aujourd'hui, elles sont là. Le côté, non, mais soit fonctionnaire, c'est mieux parce que tu seras plus planqué. Bah, oui, il n'y a rien de changé. L'espèce humaine n'a pas si changé que ça. C'est pas parce qu'on a des ordinateurs qu'on est supérieur à ces gens-là, bien au contraire.
En tout cas, vous l'aurez compris, à partir d'un même cadre, on va dire, on arrive à, grâce au travail de l'imagination de ces auteurs, à voyager de manière totalement différente. Alors, vous aurez l'option... d'une Égypte particulière, on va dire. Voilà, mais extrêmement drôle, extrêmement réussi, avec plein de trouvailles, plein de clins d'œil, et on ne vous a pas tout raconté, loin de là, et vous verrez, il y a vraiment, il y a vraiment des choses très, très étonnantes dedans. Et puis, si vous voulez une Égypte un peu plus réaliste, en tout cas plus historique et plus proche sans doute de ce qu'elle a véritablement été, bah vous avez aussi ces possibilités qui se présentent à vous au travers de genres là encore assez différents, et bah on espère vous avoir donné envie de retrouver nos auteurs sous la bulle du livre dans quelques instants, et puis évidemment de les lire, parce que c'est quand même ça le plus important. Merci beaucoup.